Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans ce studio Alain Chaouli, un des principaux spécialistes de la culture juive iranienne. Alain Chaouli, pour vous resituer en quelques mots, vous êtes né à Téhéran en 1939. Oui. Vous êtes un jeune homme encore superbe.
Merci beaucoup.
Je le dis pour toutes nos auditrices qui nous écoutent.
Merci beaucoup.
Et vous avez émigré avec votre famille en France en 1950 et vous avez poursuivi des études d'opticien, optométriste, et profession que vous avez exercée jusqu'en 2000. Oui. Mais vous aviez la vocation de savoir, d'apprendre et de comprendre. Ouais, ouais. C'est pour ça que, très attaché à votre culture d'origine, votre culture iranienne, vous avez entamé en 1995 un mémoire de maîtrise de sociologie sur les Basidji. Les Basidji, c'est quoi exactement?
Les Basidji, ce sont des jeunes adolescents sur lesquels j'ai travaillé. Ce sont des jeunes adolescents qui partaient pendant la guerre Irak-Iran pour déminer, pour permettre aux soldats d'avancer. Et c'était vraiment des chairs à canon. Ces jeunes savaient qu'ils allaient mourir et ils faisaient leur testament en expliquant pourquoi ils entreprenaient cette entreprise. Et on arrive à détecter à travers ces textes un côté psychologique et le côté adolescent, le côté suicidaire, le côté d'initiation à la vie. Alors, s'ils en réchappaient, ils renaissaient à la vie. Et sinon, c'est Khomeini, le grand-père, qui les avait bénis pour qu'ils partent au paradis.
Alors, c'est un sujet passionnant, mais qui ne fera pas l'objet de cette émission, puisque nous sommes dans une émission musicale. Et vous avez consacré un autre travail doctoral, cette fois-ci, une thèse aux musiciens juifs en Iran au 19e et 20e siècle et leur contribution à la sauvegarde du patrimoine musical iranien.
Vous remarquerez que j'ai sauté de la religion musulmane à la religion juive qui était la mienne, et je n'ai pas été très loin avec les Basidji parce que ça m'entraînait trop loin sur l'islam et c'était pas ma culture.
Et on en est très heureux parce que en fait il existe très très peu de travaux, et en tout cas en français, sur la ou les musiques des juifs d'Iran. Donc vous avez publié en 2006 aux éditions L'Harmattan une première édition de cette thèse, donc publiée sous le titre « Les musiciens juifs en Iran au 19e et 20e siècle ». Et en 2012, toujours chez L'Harmattan, vous publiez une édition remaniée et enrichie de ce livre avec comme titre « Les juifs d'Iran à travers leurs musiciens ». Ce livre, d'ailleurs, a été traduit en anglais et publié en Californie. Et il est en cours de traduction en persan, et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est donc autour de ce livre et de vos connaissances que nous allons dérouler notre émission, qui sera, comme vous l'avez compris, consacrée aux Juifs d'Iran et à leur musique. Donc, avant même de commencer à parler des musiques des Juifs d'Iran, je vous propose d'écouter dès à présent un premier extrait musical que vous-même avez sélectionné et dont nous parlerons après.
Baby, go, 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 go.
Arus Ranum, musique de fête pour la mariée. Qu'est-ce que ça signifie exactement d'ailleurs ce titre, Arus Ranum?
Arus Ranum, c'est la femme, donc c'est la mariée. Arus, c'est l'homme. Arus Ranum, c'est la femme.
La femme, donc c'est, oui, la femme pour l'homme, c'est tout un programme. C'est évidemment un chant de fête pour la mariée, mais ouais. Bon, peut-être pour le marié aussi. C'était ici interprété par le groupe Narid Mehram dans un album qui s'appelle Tehran.
Oui.
Et alors, première question qui me vient tout de suite en tête, c'est chanté en quoi là? C'est pas de l'hébreu là, on a reconnu
non,
ça.
Non, c'est du persan, c'est le persan populaire. C'est ce qui est chanté par tous les Juifs et par tous les Iraniens. C'est la même langue, c'est l'iranien, c'est le persan. C'est la langue persane.
Et alors, est-ce que cette musique donc, de mariage, elle est spécifique aux communautés juives iraniennes ou elle est dans tous les mariages iraniens? Enfin, est-ce que c'est un répertoire typiquement juif ou non?
Alors, il peut y arriver qu'il y ait des chants qui soient chantés en hébreu, mais la musique, elle est toujours persane. Sur les modes et les échelles de la musique persane. Tout ce qu'on entendra, il n'y a pas de musique juive en Iran.
D'accord,
les échelles sont persanes et les paroles, les compositions, tout ce qui peut être chanté, les chants peuvent être en judo-persan ou en hébreu.
D'accord. Et sur le mariage lui-même, comment se passe un mariage juif en Iran, sans nous décrire, parce que je ne sais pas, est-ce que ça dure des jours et des jours? Est-ce que c'est, voilà, en quelques mots, en quelques phrases?
Non, ça ne dure pas des jours et des jours. Ce n'est pas comme en Roumanie où ça dure pendant 3 jours. Non, c'est une journée, mais c'est très grandiose et on met beaucoup de plaisir à faire des noces très importantes, à recevoir beaucoup de gens. Et en Californie, aujourd'hui, ils reçoivent jusqu'à 1000 personnes parmi les communautés iraniennes. Et c'est à qui aura de plus d'invités, à qui montrera plus d'aisance pour montrer sa richesse par rapport aux autres. C'est un petit peu l'aspect... Moi, je suis mieux que les autres.
D'accord. Et sur les mariages eux-mêmes, vous vouliez nous dire quelques mots en plus,
oui,
je crois.
Dans ma thèse sur les musiciens juifs en Iran, j'avais un petit peu insisté sur les chants de mariage en judo-persan. Et je vais vous développer un tout petit peu, ça ne va pas être très long, sur ce que représentaient ces chants de mariage. Les chants de mariage en judo-persan sont très répandus parmi les nombreuses communautés juives en Iran, qui ont vécu depuis très longtemps. Et nous verrons qu'ils ont plus de 2700 ans d'histoire en Iran. Le terme judéo-persan se réfère aux différents aspects de la culture juive, incluant les dialectes et la littérature à travers tous les territoires du pays. Comme la littérature en judéo-persan et son folklore en particulier, les chants adoptés par les Juifs, provenant de leur environnement non juif, ont eu fréquemment un caractère profane. Dans la catégorie des chants profanes, les communautés juives ont largement adopté l'ensemble de couleurs locales des traditions iraniennes. La place importante des Juifs iraniens dans la tradition musicale persane peut avoir été favorisée par d'autres apports dont ils sont largement inspirés, en particulier par les chants qu'ils ont adoptés des autres groupes ethnico-religieux ayant composé la mosaïque culturelle de l'Iran. Sarah Souroudi, qui était professeure, malheureusement elle est décédée, à l'Université de Jérusalem, dans une étude Shiryai Hatani sur les chants de mariage des Juifs en Iran, a observé que les Juifs ont innové en incluant des thèmes dans les premiers chants en judéo-persan, contrairement aux autres ethnico-religieuses en Iran. Ces chants donnent une idée enrichissante sur ces communautés. La plupart des chants de mariage en judéo-persan ont été adoptés à partir des chants folkloriques traditionnels environnants. Shiria Tratani fait partie, comme l'écrit Souroudi, des textes rituels qui sont chantés dans les synagogues. Cette chanson, Shiria Tratani, très connue parmi tous les Juifs d'Iran, est utilisée communément pour les cérémonies de fiançailles et de mariage. Le mot hébreu Shira veut dire poésie, chant ou musique. Il est largement employé dans la littérature judéo-persan, le sens de poésie, de même qu'en hébreu.
J'étais frappé effectivement par cette proximité sémantique entre shir, cher, chou, qui veut dire poésie.
Absolument.
C'est absolument passionnant. Ouais. Et alors, ce que je vous propose d'écouter tout de suite, c'est un chant de mariage qu'on va entendre déjà en hébreu, et puis après en judéo-persan. Comme ça, on va peut-être parler après de ce versant judéo-persan. Donc, on va écouter ce chant de mariage qui est chanté à voix seule par un. C'est pas un enregistrement, je dirais commercial. C'est un enregistrement que nous appelons nous de terrain, d'un monsieur donc né à Téhéran en 1929 qui nous a interprété, qui nous chante ici c'est un chant de mariage et qu'il reprend en judéo-persan.
שבון שלום בבית מלך וכל קהל יברכו. שודי הטויון מבורק בויון השם פושטו פנוהת בויון נייפתי תו جوان از پایان به دور تو آید گو
Donc un chant de mariage interprété ici par Monsieur Yehuda Harel, né à Téhéran en 1929. C'est un chant que vous découvrez avec
oui,
moi,
absolument.
Alain Chaouli. Les deux ou trois premiers couplets, on va dire, étaient en hébreu. Puis après, il le reprend, mais en judéo-persan. Alors, votre commentaire à chaud, qu'est-ce que...
Alors, le mot judéo-persan, hatani, provient du mot hébreu hatan, qui veut dire fiancé ou marié. L'addition du « i » le change en adjectif « hatani », de sorte que le mot judéo-persan « hatani » devient l'équivalent du mot persan « damadi ». « Damad » étant le fiancé, le « i » donc l'adjectif. Et signifie le moment des fiançailles ou de mariage, et par extension une cérémonie de fête ou de mariage. Le terme le plus communément utilisé par les personnes pour le mariage est aroussi. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Formé du mot arous, mari ou marié, et aroussi. C'est un chant de synagogue. Un chant réservé aux hommes, c'est-à-dire qui est originellement destiné à chanter par le mari. Quand il est appelé à lire la Torah, le premier Shabbat après la cérémonie des fiançailles. L'originalité de Shir HaTani, je pense que cela correspond à cette chanson, cela correspond à Shir HaTani. Et sa popularité provient du fait qu'il s'est transmis aussi bien oralement que par écrit. Et il était accessible à ceux qui savaient lire comme parmi les illettrés. Et comme généralement, contrairement à la majorité des hommes, beaucoup de femmes dans les communautés juives étaient illettrées, elles apprenaient donc les chants par cœur.
C'est la fameuse tradition orale, en fait.
Voilà. Ouais.
Mais
ouais.
Alors moi, je voudrais bien comprendre quelque chose. Quelle différence, en fait, il y a entre l'hébreu et le judéo-persan ? Là, je voudrais qu'on précise bien nos auditeurs. En fait, qu'est-ce que c'est que ce judéo-persan ? Est-ce que c'est de l'hébreu ? Enfin, voilà. Vous parlez, je crois, d'une judéo-langue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément ce que
judéo-persan fait partie des judéo-langues, comme judéo-espagnol, comme le yiddish, différentes langues. Et en judéo-persan, c'est du persan. Et quand on écrit, c'est en caractère hébreu, mais de signification persane.
D'accord, oui, donc c'est en fait exactement l'équivalent du yiddish ou du judéo-espagnol.
Absolument,
En fait, c'est en fait la graphie, comme les juifs connaissaient, de tout temps, ils ont appris à écrire l'hébreu, donc ils connaissent évidemment l'alphabet hébraïque, ils l'ont utilisé pour écrire leur langue de tous les jours, leur langue vernaculaire, qui était le persan, c'est ça ?
Qui était le persan. Et le persan a 22 lettres et l'hébreu en a 32.
22 lettres ou 32, ou l'inverse peut-être.
Ou l'inverse, plutôt l'inverse, oui. Plutôt l'inverse. Et alors, les poètes juifs, ils ont écrit toute leur poésie en judéo-persan.
D'accord.
Donc, ils ont été obligés d'inventer des mots qui n'existent pas en persan.
D'accord.
Ils ont inventé donc toute leur écriture en judéo-persan. Toute la poésie des grands poètes juifs sont en judéo-persan et quelques-uns ont été traduits en persan, du judéo-persan en persan.
Oui, parce que si c'était écrit en judéo-persan, ça veut dire que les autres Iraniens ne pouvaient pas le lire, c'est ça ?
C'était pas fait pour les musulmans, c'était fait réservé aux juifs.
C'était à usage interne.
Qui savaient lire l'hébreu, donc ils arrivaient à déchiffrer ce qui était écrit en poésie. Mais les musulmans ne connaissaient pas ça. Ils n'ont jamais connu.
Ils n'ont pas connu. Et cette poésie, est-ce que ça correspond à ce qu'on appelle généralement les pioutim, la poésie religieuse ? Vous savez, cette poésie religieuse en usage dans toutes les communautés juives, qui est née, on pense, entre le 5e et le... enfin, plus exactement, un peu plus tardivement, mais vers le 8e, 9e siècle. Est-ce que ça correspond donc à ce qu'on appelle, nous, les pioutim ?
Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Les grands poètes juifs en Iran, ils se sont inspirés de la mythologie juive, comme les poètes persans se sont inspirés de la mythologie persane.
Mais les pioutim peuvent s'inspirer, ont souvent un sujet biblique en fait, puisque on prétend que la naissance de cette poésie religieuse est due en partie à l'interdiction par Justinien Ier vers le 5e siècle de la déclamation de prière en hébreu, et que pour contourner cette interdiction, les juifs auraient en fait introduit ces poésies religieuses qui reviennent, qui se basaient sur des sujets bibliques et qui reviennent en fait à glorifier Dieu en s'appuyant sur des épisodes bibliques et qui remplacer les prières.
C'est bien ça, ça correspond à ça.
Donc ça fait partie de cette poésie religieuse qu'on appelle généralement en hébreu pioutim. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter un extrait d'une de ces poésies religieuses, d'un de ces pioutim très connus dans le monde, pas seulement iranien, mais dans le monde oriental en général. C'est le pioutim Bar Yochai, dont on dira peut-être quelques mots après l'avoir écouté. Là encore une fois, il s'agit d'un enregistrement artisanal de Monsieur Yehuda Harel, qui chante pendant une petite minute ou plus un extrait de ce piyut Bar Yochai.
Yes. Levacham yas kilpi hu adonenu bario.
Un piyout bien connu dans toutes les communautés juives, notamment du Maghreb. Piyout, donc chanté ici par Yehuda Harel, donc né à Téhéran en 1929. Bar Yochai, un des pères du mysticisme juif, qui est donc vénéré comme un saint dans beaucoup de communautés. Je connais ce piyout chanté en Tunisie ou ailleurs également. Donc il y a cette poésie religieuse, on a entendu ces chants de mariage juste avant, et vous m'avez dit, d'ailleurs je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, très très intéressant et amusant, que dans les mariages juifs iraniens aujourd'hui, aux États-Unis notamment, il y a des milliers d'invités, et que ça donne lieu à une grande liesse, une grande fête, mais ça n'a pas toujours été le cas en Iran, puisque dans votre livre, et là je vous cite, dans un de vos deux livres, je crois que c'est le premier, puisque vous avez écrit deux livres sur ce sujet-là, il y a eu quand même des interdictions à différentes époque qui ont frappé la pratique religieuse juive, mais pas que juive d'ailleurs, de toutes les communautés non musulmanes, on va dire. Ainsi, en 1891, et je vous cite, lors du soulèvement populaire donc contre les concessions de tabac, les autorités de la ville de Hamadan. Hamadan, c'est pas une ville anonyme, puisque c'est là où normalement il y a c'est toute l'histoire d'Esther, il y a le tombeau de Mardoché, d'Esther, etc.
C'est un lieu de pèlerinage pour les Juifs.
Voilà, donc une ville importante pour les Juifs, mais aussi d'ailleurs ce pèlerinage est fait, je crois, également par les musulmans.
Absolument.
Et donc dans cette ville a édicté donc à la fin du 19e siècle des lois sévères contre les Juifs, et il était mentionné à propos des mariages qu'ils devaient se célébrer dans le silence le plus total. De la même façon, le pacte d'Omar qui régit le statut de Dhimmi. Alors les Dhimmi, c'est justement les peuples du livre, mais qui ne sont pas musulmans, donc ça veut dire les juifs, les chrétiens, enfin tous ceux qui croient quand même au monothéisme, qui ont donc parfaitement le droit de vivre dans une société musulmane, mais ils ont des droits et des devoirs un peu différents des autres.
Ce sont les protégés.
Et pour les protéger, donc ce pacte d'Omar précise que l'ensevelissement des morts doit s'effectuer également en silence. Fort heureusement, ces lois étaient plus ou moins appliquées selon les lieux et les époques, et donc les liturgies des communautés juives d'Iran comportent, comme on l'a entendu tout à l'heure, des chants de mariage qui prouvent bien que quand même on entendait de la musique et des chants et que les mariages ne se faisaient pas en silence. Et je suppose qu'il y a également des chants funèbres. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne toujours, et vous l'avez dit de façon tout à l'heure, c'est voir à quel point, en fin de compte, ces communautés juives, quel que soit le pays où elles se trouvent, s'imprègnent totalement du langage musical et de la culture environnante dans laquelle ils baignent, et utilisent ce langage au sens langage du terme, mais aussi ce langage musical. Et notamment, vous avez parlé tout à l'heure des modes des
Dastgah.
C'est quoi ces Dastgah?
Ben, ce sont les échelles, les différentes échelles de la musique persane, et chaque mode correspond à un état d'esprit. Alors il y a des mélodies pour qui sont gaies, il y a d'autres mélodies pour la poésie, il y a des mélodies pour le martyrisme, des mélodies pour différentes époques, et pour les chants de mariage par exemple ou autres, ce sont des chants très gais, et ce sont d'autres échelles qui sont employées. Il y a sept modes de Dastgah et des gouchers, donc des sous échelles. C'est une musique, la musique persane est une musique très mathématique. C'est une musique très, très mathématique, et on ne peut pas ne pas suivre un rythme qui est bien défini d'avance. Si on joue une note différente de ce qui doit être fait, la musique, ça passe pas. C'est une musique mathématique. Et c'est une musique authentique. Et quand vous entendez une musique persane, vous distinguez immédiatement des autres musiques orientales, que ce soit arabe ou d'autres pays. Elle est très, très typique, cette musique.
Moi, ce qui me... je connais dans ma formation d'ethnomusicologue un peu les musiques environnantes, notamment les musiques de l'Inde avec le système des ragas.
Oui,
je connais évidemment le système aussi des modes, des tabous, des makamats dans les pays.
Maromat. Ça vient de Marom.
Oui.
Ça, c'est Marom, donc ça fait partie des échelles de la musique persane. Et ça a été traduit dans différents trucs. Alors vous parlez des...
Makamat, c'est donc dans les pays arabes où on emploie ce terme-là, ouais. Notamment entre le Mashrek et le Maghreb, ouais. C'est un peu différent les termes. Et je trouve que justement l'Iran fait la transition exactement située géographiquement, mais également musicalement, entre ces échelles indiennes et ces échelles arabes. On retrouve l'utilisation non seulement de termes, mais de procédés musicaux. Alors vous parlez de mathématiques, c'est vrai que c'est extrêmement subtil, parce que dans le déroulement de la mélodie, on a, je crois, un déroulement... dans les pays du Maghreb, qui est linéaire. C'est pas des accords comme si on accompagne une musique avec une guitare ou un piano ou une chanson.
Absolument. C'est toute une harmonie. Jean During a fait une étude là-dessus, une étude intéressante sur la musique persane. Et c'est une musique qui est très harmonieuse et il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture. Et alors, les maîtres de la musique persane que j'ai interrogés, ils me disent tous, toutes les autres musiques se sont inspirées de la musique traditionnelle persane. C'est une musique très ancienne qui a 1500 ans, 2000 ans d'histoire. Et ils ont transmis cette musique un petit peu aux alentours, aux autres pays, en Inde et chez les Arabes.
Alors c'est possible. En même temps, je suis sûr que chez les Indiens ou chez les Arabes, on dit le contraire. Ouais. Ça, c'est le chauvinisme local. Mais
ça, ce sont les maîtres. Il y a rien qui m'a rapporté ça.
Bien entendu. Et donc, cette musique à base de mode comme ça, on a du mal à différencier. Vous disiez tout à l'heure quelque chose d'assez provocateur. En fait, vous disiez qu'il n'y a pas de musique juive en Iran. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait? Parce que là, tout à l'heure, on entendait une musique de mariage chantée en hébreu, en fait, qui était typiquement...
Oui, les chants sont en hébreu. Les chants sont typiquement juifs. Mais le mode de musique, c'est de la musique persane.
Vous voulez dire, en fait, le langage musical. Comme nous, on emploie en Occident la gamme de Do majeur, etc.
Voilà. Je vais raconter une histoire. Bernard Hourcade... Vous connaissez Bernard Hourcade, c'est un des spécialistes au CNRS sur le monde iranien. Il dit qu'il était à Jérusalem, il était sur le mur de Lamentation et il a entendu quelqu'un qui chantait justement des chants en hébreu et avec le mode de la musique persane, le mode Ispahan, avec des trilles dans la voix, quelque chose de grandiose qui partit. Mais qui est-ce qui chante ça? Ça ne peut être qu'un Iranien. Et c'était un Iranien. Qui chantait en hébreu, mais avec sa musique traditionnelle pour lui, qui était cette musique persane, et il chantait avec le mode ispahan, le dasko ispahan. C'est ça qui marque la différence des juifs en Iran qui se sont appropriés la musique persane.
Et Amnon Chelouar, dans son livre sur les traditions musicales juives, à propos du mur des lamentations, a une très belle image, puisqu'il dit que c'est une espèce de tour de Babel musical. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche de ce mur, on entend les mêmes, parfois, c'est la même liturgie, mais chantée dans tous les langages musicaux du monde, parce qu'il y a des juifs originaires de tous les pays du monde.
C'est un tour de Babel.
Alors, on va justement écouter quand même un chant qui est l'un des rares chants, vous nous le préciserez peut-être après, à mentionner explicitement qu'il provient du répertoire des Juifs de Shiraz. Il s'agit donc de la musique et Yaoud et Shiraz, et extrait de l'album qui s'appelle Shiraz et interprété par les Motreb.
I'm gonna go
Un extrait du morceau Musique et Yao de Shiraz, toujours un extrait de l'album Shiraz interprété par les Motreb. Je vous voyais, Alain Chaouli, pendant qu'on écoutait cette musique, vous étiez presque en train de danser.
Mais oui, c'est tellement bien rythmé. Alors justement, avec les doigts, on accompagne la musique comme ça et on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et j'ai envie de l'accompagner quand il est passé.
Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'un chant de mariage,
c'est un chant profane, c'est un chant populaire des juifs, comme des autres musulmans. Mais là, nous avons donc la musique persane avec les chants de dialecte des juifs de Shiraz, un judéo-persan spécial de Shiraz.
Je suppose qu'il y a des dialectes selon les villes qui ne sont pas les mêmes entre Shiraz, Isfahan, Téhéran, etc.
Des fois, ils ont du mal à se comprendre parce qu'ils sont éloignés les uns des autres et ils n'avaient pas l'occasion de communiquer entre eux.
Même sans dialecte, parfois les juifs ont du mal à se comprendre. Mais ça, c'est un aparté.
Excellent.
Et là, quels sont les instruments qu'on entend et plus globalement, d'ailleurs, les instruments utilisés dans ces chants?
Alors, ce sont tous les instruments de musique traditionnelle persane. Donc, nous avons le tar, le setar.
C'est quoi le tar et le setar?
Le tar, c'est l'instrument à cordes comme les guitares.
Comme une guitare, oui. D'accord, comme le oud.
Oui, donc le tar, le setar. Tar, il y a trois cordes et le setar, il y en a sept.
D'accord.
Ensuite, nous avons le zarb, les percussions.
Percussions, donc tombak, la famille des tambours, en quelque sorte.
Le tombak. Il y a aussi le daf, il y a des fois le violon.
Comment on l'appelle le violon?
C'est le violon, c'est
accidentel. C'est le violon. D'accord.
C'est le violon. Parfois, il y a le camanché, qui accompagne.
Le camanché, c'est une espèce de vielle, comme un violon un petit peu plus rustique.
Qu'on pose sur le genou
avec une pique.
Ça permet d'accompagner. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on a fait le tour de la question, parce que ce sont les instruments de la musique traditionnelle persane. Et les motreb, ce sont ceux qui viennent de tarab, c'est-à-dire qui gardent le rythme, le rythme de la musique. Et les motreb, à Shiraz, étaient tellement importants parmi la communauté juive que quand on parlait de motreb, on signifiait spécifiquement des juifs. Les autres musiciens, et il n'y avait pas d'autres musiciens, c'était les motreb juifs qui exerçaient ce métier.
Et j'ai pas compris, que signifie ce terme motreb en fait?
Motreb, ça vient de tarab.
Qui veut dire.
Je crois que c'est ouvrier de plaisir.
D'accord, donc en fait c'était des divertisseurs, si on peut dire ce néologisme.
Absolument, des divertisseurs.
Ils s'occupaient de la musique de divertissement pour les fêtes et des choses comme ça, c'est
voilà,
ça?
Voilà. Et le motreb était les juifs, c'était approprié au début, surtout à Shiraz.
D'accord.
Et il y a différents types de motreb. Ils jouaient de la musique, il y a une musique qui s'écoute, il y a une musique qui se danse et donc qui est de divertissement. Alors, Mortazene Daoud, par exemple, sa musique était une musique qui s'écoutait.
D'accord.
Et il y a d'autres musiques pour les circoncisions, pour les mariages, pour les fêtes et cérémonies hautes, où c'était des musiques de plaisir et de gaieté et de joie.
Mais alors, quand vous dites musique qui s'écoute, musique qui se danse, moi, ça me fait souvent penser à cette opposition qu'on marque, mais qui n'est pas toujours forcément vraie, entre musique populaire, qui est plus la musique de divertissement pour danser, etc., et la musique savante, qui est une musique
ça plus... Ça correspond à ça. C'est une musique qu'on l'écoute religieusement, sans boucher. Et l'autre musique, où c'est plus populaire, donc c'est plus de...
Et est-ce que il y a aussi, parce que parfois dans la musique populaire, plus pour danser, c'est plus une musique instrumentale, et la musique savante est instrumentale, mais avec une prédominance vocale. Est-ce que c'est la même chose dans la musique iranienne ou non?
Absolument. Surtout par exemple avec la poésie. Souvent la musique qui s'écoute est accompagnée par la poésie, et souvent la poésie accompagne la musique et vice versa, donc les instruments qui envoient la poésie et qui envoient aux instruments de musique.
Alors bah écoutez, je vous propose justement d'écouter une de ces musiques à écouter, ça tombe bien. Il s'agit d'une musique populaire, vous me corrigerez ma prononciation, qui s'appelle Zohré Dian, je ne sais pas si on le prononce comme ça, qui est extrait de l'album Téhéran, chanté donc toujours par le groupe Narid Mehram. Zohré Dian, donc extrait de l'album Téhéran, chanté par le groupe Narid Mehram. Donc toujours ces musiques, alors on ne sait même plus si elles sont iraniennes, juives iraniennes, tellement c'est mêlé, mais je crois que c'est lié à une longue histoire des juifs en Iran dont vous souhaiteriez nous dire quelques mots.
Oui, je voudrais vous parler un petit peu de l'origine des juifs quand ils sont arrivés en Iran et ce qui fait qu'ils sont tellement imprégnés de la culture persane. Les juifs ont résidé en Iran il y a plus de 2700 ans. Je vais vous donner quelques dates qui expliquent cette ancienneté. La première fois que les Juifs sont arrivés en Iran, c'est en 735 avant Jésus-Christ, avec leur première déportation après la défaite du royaume d'Israël par Salmanassar V, le roi des Assyriens. Ensuite, la deuxième présence des Juifs en Iran, c'est 539 avant Jésus-Christ, avec Cyrus le Grand, Cyrus II le Grand, qui libère les Juifs de Babylone et qui leur permet de partir soit en Israël, soit il les libère. Alors, une partie des Juifs bien intégrés sur le plan économique préfère rester sur place en Iran. On dit qu'anciennement, la ville d'Ispahan s'appelait Yahoudiye, la ville juive, car le roi Nabucodonosor y avait installé des Juifs qu'il avait déportés de Jérusalem. Les historiens arabes du premier siècle de l'islam ont nommé de leur côté Ispahan la ville juive. Alors, d'autre part, on fait la liaison entre l'épouse du roi Sassanide Yasgir Ier, 339-421, résident dans la ville de Assus, qui avait pour épouse Shushuna Martuzara, une jeune fille des plus éminentes notables juives d'Iran. Il faut situer avec l'islam, c'est 632 après Jésus-Christ. Donc, préciser donc l'importance des Juifs en Iran. Depuis cette longue période, il y a des lieux de pèlerinage et des lieux saints pour les Juifs en Iran. Par exemple, dans le livre d'Esther, le massacre des Juifs qui était planifié par Haman, c'est la fête de Purim pour tous les Juifs pour commémorer cette délivrance. C'est à Hamadan que se trouvent les tombes d'Esther de Mardoché. À Nahovand, il y a le tombeau de Moussa ben Bari. D'autres lieux saints, à Tuiserkan, celui d'Ababouk, à Sous, le tombeau de Daniel, etc. À Ispahan, il existe une des plus anciennes synagogues située à Chaharbar, datée d'environ il y a 1800 ans. Il faut signaler aussi la ville de Lahore, qui est au sud de Shiraz, qui a occupé une place historique importante pour les communautés juives, puisqu'on a décompré plus de 70 synagogues. Voilà. Et dans le livre que j'ai publié, il y a à peu près 160 photos sur 80 pages, pour la plupart inédites, qui illustrent l'histoire des Juifs d'Iran et de leurs musiciens.
Et alors, ce qui est un peu étonnant, c'est ce que moi j'ai été surpris en lisant votre livre, c'est de voir qu'il reste encore aujourd'hui en Iran beaucoup de Juifs. Combien à peu près?
Mais oui, on compte entre 20 et 25 000 Juifs en Iran qui ne veulent pas partir de l'Iran, qui disent « c'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre histoire, tous nos ancêtres sont là ». Et nous resterons en Iran quoi qu'il arrive.
Et vous dites que c'est la première communauté juive dans le monde musulman.
Dans le monde musulman, absolument. C'est une particularité du monde iranien.
Et en plus de cela, les juifs iraniens sont non seulement totalement intégrés, mais même un des grands représentants, j'allais dire poètes et musiciens surtout juifs, qui s'appelle Morteza Neidavoud, si je le prononce bien, a écrit de nombreuses musiques. Il est vénéré à la fois par les Iraniens, tous les Iraniens, quelle que soit leur confession religieuse. Et il était juif, mais il ne le disait pas trop, mais il était juif. Et il a composé un air très connu là-bas qui s'appelle Morgue Sahra, qui fut même un comble quand même, l'hymne symbole de la révolution chiite de Roménie en 1979, et je vous propose d'écouter donc le début de ce morceau.
Morghe Sahar Ahang darmaye mahur az Murteza Neidavud She'r tarane va avaz az Malik ush-shu'aray Bahar Tanzim baraye orkestr az کیوان ساکت Thank you.
juste le début de cette ère qu'on aurait aimé entendre en entier, mais j'espère que cette émission vous incitera à aller écouter plus de musique iranienne et musique juive iranienne. Donc Morghesar de Mourtaza Neidavoud, compositeur juif, et cette ère qui a été repris comme symbole de la révolution chiite de Khomeini en 1979. Alain Chaouli, il y a quelque chose qui me frappe, moi, quand j'entends ça, j'entends plus de la musique persane, j'entends une valse. Moi, j'ai envie de plutôt de... Alors comment on peut expliquer en une phrase ou deux, c'est pas plus...
Mourtaza Neidavoud, c'est un ancien élève de l'Alliance israélite universelle.
D'accord.
Alors peut-être il a été un petit peu occidentalisé par l'Alliance. Alors, je ne sais pas.
C'est vrai qu'il y a eu des mouvements d'occidentalisation, vous le dites dans votre livre, au XXe siècle, un fort rapprochement avec l'Occident.
Oui, la musique persane, ça s'est très modernisé avec les nouveaux instruments de musique et autres. Ça s'est beaucoup modernisé, c'est vrai, c'est beaucoup modernisé. Mais ce qui est intéressant, cette chanson de Mourtaza, c'est une chanson actuelle, engagée et politique. Sur la victoire de la liberté dans l'amour de la patrie, sur la défaite de l'injustice et de l'inégalité sociale. Et c'est un juif qui a voulu préserver cette particularité de la musique persane.
Alors, c'est d'autant plus incroyable quand on sait aujourd'hui l'hostilité, j'allais dire, du régime iranien à l'égard d'Israël, de l'État d'Israël, mais de voir que ces Juifs iraniens sont complètement, eux, intégrés à leur patrie. L'Iran, pour eux, c'est leur patrie.
Absolument.
Et c'est d'autant plus paradoxal que cette musique iranienne trouve aujourd'hui un terrain d'expression fertile en Israël même, avec notamment des interprètes de premier ordre, comme la grande chanteuse Rita, née en Iran, et qui n'hésite pas à chanter des chansons en perse, tout en les faisant évoluer au contact de la variété israélienne. Vous nous avez même dit que ces chansons, les chansons de Rita, sont très appréciées en Iran, mais qu'il faut les écouter ou les acheter clandestinement, mais qu'elles circulent beaucoup. Et donc, on va finir par écouter donc un morceau de Rita qui s'appelle Shah Dumat. Voilà, c'est encore une chanson faite pour le marié, et c'est chanté en persan par Rita. Dumat, juste un extrait de cette magnifique chanson de Rita, chantée en perse, une chanson de fête pour le marié. On aimerait avoir eu le temps d'en écouter plus, mais malheureusement, notre émission touche à sa fin. Encore une émission passionnante, et grâce à vous, Alain Chaouli, merci infiniment de nous avoir guidés dans cette découverte de ces musiques juives iraniennes encore trop méconnues. Évidemment, j'encourage tous nos auditeurs et auditrices à se procurer le livre d'Alain Chaouli, Les Juifs d'Iran à travers leurs musiciens, publié en 2012 aux éditions L'Harmattan. Ce livre traite non seulement bien sûr de la musique, mais également de l'histoire, de la culture iranienne en général. Et comme l'a dit Alain Chaly, il est magnifiquement illustré par plus de 80 pages de photos inédites. Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez bien sûr la réécouter, ainsi que toutes les précédentes sur notre site. Donc je rappelle le site de l'Institut européen des musiques juives, www.cfmj.fr, ainsi bien sûr que sur le site de Judaïque FM, judaïquefm.com, dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique, toujours aussi excellent. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby,